Radio Barque, la troisième partie de notre 16e avec de nos deux invités aujourd'hui, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ils sont deux, ils sont responsables de l'orchestre d'harmonie de Narbonne.
C'est joli quand même, harmonie.
C'est l'harmonie la plus totale. Donc, Laurence Fraisse et Bertrand Bail. Bonjour, rebonjour à vous deux.
Bonjour, Jean-Claude.
Alors, d'abord, un orchestre d'harmonie, expliquez-nous ce que c'est.
Alors, un orchestre d'harmonie, c'est un orchestre qui est constitué de vents, de percussions, de cuivres. C'est-à-dire, dans les vents, on va trouver les flûtes, les clarinettes, les saxophones, hautbois. Dans les cuivres, on va trouver les trompettes, trombones, euphoniums, tuba. Dans les percussions, timbales, batteries, toutes les petites percussions à main, xylophones. On a aussi, alors là, effectivement, une contrebasse à cordes, mais depuis... On va dire, c'est courant qu'on trouve aussi des contrebasses à cordes dans les orchestres d'harmonie, voilà.
Oui, mais il y a une grande variété, c'est exactement. Presque un orchestre symphonique.
Sauf que, justement, il n'y a pas de cordes. Donc c'est toute la différence, sauf la contrebasse à cordes.
Il n'y a aucune corde, à part la contrebasse. Oui. Oui.
Voilà, c'est la grande différence. Et justement, ce qui est caractéristique des orchestres d'harmonie, c'est que les parties qui sont habituellement faites dans les orchestres symphoniques par les violons alto, les violoncelles, sont réparties sur ce qu'on appelle la famille des bois dans les orchestres d'harmonie, c'est-à-dire les flûtes, les hautbois, les clarinettes et les saxophones.
Mmh. Oui. Alors, comment ça naît un orchestre comme ça? Parce qu'évidemment, il faut trouver des musiciens qui sont amateurs en général.
Oui, mais je crois que ça naît d'abord avant tout d'une volonté politique. Ce qui a été le cas avec Hubert Mouly à l'époque, puisque vous savez que la ville de Narbonne avait une très vieille tradition, puisque les premiers orchestres symphoniques, il y avait une tradition symphonique sur Narbonne, date de 1780, à peu près dans ces années-là, 1775.
Ah oui, quand même, oui,
absolument. On a retrouvé dans les archives de la ville les premiers règlements, d'ailleurs, qui étaient tout à fait savoureux dans la façon dont les musiciens, mais aussi les directeurs de musique, devaient se tenir vis-à-vis des musiciens. Être poli, chapeau bas, etc. Et leur parler convenablement. Ça, c'était dans le premier règlement. Et vous savez, sur les deux villes dont on est proche, entre Narbonne et Béziers, c'était le lyrique et Narbonne, c'était le symphonique. Et donc, aux aléas, bien sûr, des subventions ou de l'argent qui rentrait, qui ne rentrait pas, il y a eu un certain nombre d'orchestres depuis cette période. Et il y a eu une période, avant les années 90, où les orchestres se sont arrêtés et où Hubert Mouly, avec Michel Moynier, qui était à l'époque son adjoint à la culture, ont décidé de remettre sur pied un orchestre. Ils ont mis un orchestre, ils auraient pu mettre un orchestre symphonique, ils ont choisi un orchestre d'harmonie, et c'est là où Laurence est arrivée.
Voilà, donc... Alors expliquez-nous cette époque. Alors Laurence Fraisse, vous arrivez justement, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Oui, absolument. Alors à cette époque, j'étais toute jeune professeure au conservatoire de Narbonne, et puis effectivement, il y avait le projet de vouloir monter un orchestre d'harmonie. Au départ, il y avait trois propositions de la ville. Une proposition pour une harmonie professionnelle qui devait être dirigée par M. Benterfa, qui était l'ancien professeur de trompette de Perpignan. Et puis, on était deux profs à être pressentis. Il y avait Claire Arnold et moi-même. Et puis, ma collègue n'a pas souhaité... continuer l'aventure, et le projet professionnel coûtait trop cher. Donc on m'a confié la tâche en fait de monter un orchestre d'harmonie. Heureusement, j'ai été aidée à l'époque par Émile Espuna, qui était notre président fondateur de cette association. La ville, bien sûr, a beaucoup aidé, puisqu'ils nous ont mis... ils ont fait d'abord des travaux dans les locaux. C'était dans l'ancien Caride, qui est le conservatoire actuel. Donc, ils nous ont fait des travaux sur une salle pour qu'on puisse répéter sans trop gêner les personnes. Ils nous ont aidés. Maryse Dubas qui nous a aidés aussi au niveau administratif. Enfin, voilà.
Tout ça s'est mis en place.
Tout ça s'est mis en place. Il a fallu, bien sûr, recruter les musiciens parce qu'au départ, il n'y avait personne. C'était une association qui se créait. Donc, il y avait la partie administrative, mais il fallait aussi recruter les musiciens. Donc, il y a eu un appel d'offres. Les musiciens ont répondu présent. Monsieur Espuna, Émile, comme il connaissait beaucoup de monde parce qu'il avait dirigé beaucoup d'orchestres,
oui, il s'est adressé au vivier précédent,
absolument,
peut-être.
Voilà, donc petit à petit, ça a fait son chemin. Et voilà, on a commencé à 15 musiciens. Et petit à petit, chaque année, les rangs ont grossi. Et voilà, c'est une belle aventure. Je suis assez émue.
Alors, 20 ans maintenant.
Vraiment émue. 20 ans.
C'est ce qu'on fait cette année.
Quel est le rôle d'un conservatoire dans ce genre d'aventure, justement?
Alors, le conservatoire a toujours été un partenaire privilégié.
Bien entendu,
vraiment.
Ne serait-ce qu'au niveau des musiciens.
C'est un vivier pour
c'est
les
un vivier. Les élèves, bon, c'est vrai qu'ils sont déjà bien occupés au conservatoire, puisqu'ils ont eux-mêmes leur cursus, avec aussi également leur pratique collective. Mais il y a toujours, nous sommes toujours dans les murs du conservatoire. Monsieur Guilleux, il y a vraiment un échange et un partenariat avec le conservatoire. Comment dire, il y a des projets, il y a des musiciens, des élèves du conservatoire qui viennent aussi à l'harmonie en plus de leur cursus. Voilà, donc tout se passe très bien.
Voilà. Donc le rôle du conservatoire, c'est quelque chose qui est finalement omniprésent.
C'est à la fois omniprésent parce que c'est un vrai vivier pour les jeunes musiciens. Mais il faut bien voir une chose, c'est là où toute structure justement est fragile, c'est que nous sommes une structure indépendante.
C'est la question que j'avais posée.
Sur une forme, ça s'est monté et ça n'a pas varié depuis le début, sous forme associative.
Et le financement
est fait essentiellement par des subventions que nous donne la ville de Narbonne, puisque en contrepartie, nous avons un certain nombre de concerts à faire chaque année pour la ville, dans les diverses manifestations de la ville. Et puis nous avons des fonds qui nous viennent dans des concerts que nous pouvons vendre à l'extérieur.
Voilà, mais c'est bien l'orchestre d'harmonie de Narbonne.
De Narbonne, hein, absolument.
De la
absolument.
Ville de Narbonne, il faut
Et à ce niveau-là, c'est là où je dis que c'est fragile, parce que en effet, c'est de toute façon l'histoire, j'espère qu'elle ne se répétera pas, justement, et que les choses vont perdurer de nombreuses années encore, mais c'est ce qui s'est passé, comme je disais, depuis ces années 1780. Les aléas sont là. Par exemple, à l'heure actuelle, nous sommes hébergés depuis le début, puisque ça avait été une volonté d'Hubert Mouly d'héberger la création de cet orchestre dans les locaux du conservatoire, mais parce que le conservatoire appartenait aussi,
oui,
entre guillemets, à la ville. Il était géré par la ville.
Or, aujourd'hui, ça n'est
Or,
plus
aujourd'hui,
cas.
Depuis la création de l'agglomération, toutes les structures culturelles sont passées sous la tutelle du Grand Narbonne et de l'agglo, dont à l'époque le conservatoire. Donc, par exemple, nous avons une convention d'occupation des locaux entre le Grand Narbonne et nous. Mais c'est là où, en effet, je continue à dire que ça peut être fragile.
C'est dysfonctionnel.
Oui, fragile parce que pas toujours très net au niveau des compétences. Par exemple, quand vous faites...
Une question, est-ce que le Grand Narbonne vous fait payer un loyer ou pas ?
Le Grand Narbonne nous héberge gracieusement et nous le remercions.
Voilà, que les choses soient dites.
Elle n'est pas naïve, quoi. Hein, c'est parce que je.
Mais c'est très compliqué de nous faire payer un loyer, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait mettre, par exemple, dans les temps d'occupation, nous avons cette salle à l'année.
Ah oui, à
uniquement,
l'année,
en plus, oui, uniquement pour nos activités. Oui. Il faut préciser aussi que ce ne sont pas les seules activités de l'orchestre, puisqu'il y a un petit frère qui est né il y a quelques années déjà, qui est l'orchestre symphonique de Narbonne. Également, et qui répète aussi dans cette salle-là. Ça s'est fait par la force des choses comme ça, dans ce phasage-là, mais il y a sur la ville deux orchestres.
D'accord.
Donc qui occupent en effet cette salle pour leur répétition. C'est aussi une salle qui est le siège de l'association, où nous avons notre bureau, nous avons nos locaux, et c'est vrai que ça serait un peu compliqué, je pense, quand on en a discuté, d'ailleurs, à l'époque de la mise en place de la convention avec Jacques Bascou. Bon, il a tout de suite trouvé que c'était compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut mettre des compteurs différents, des choses comme ça,
évidemment.
Et que c'est finalement plus simple que ça soit englobé dans le fonctionnement général du bâtiment.
Oui, bon, là l'harmonie a prévalu et on ne peut que s'en féliciter.
On est en relation ça avec une nouvelle politique municipale qui, elle, facture effectivement l'allocation de salles à des associations de la ville.
Oui, c'est une autre affaire et c'est à suivre, mais en tout cas, pour le moment, de votre côté, ça se passe comme ça. Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure, Bertrand Bail, ce qu'est une harmonie, il n'y a pas de cordes. Là, dans un orchestre symphonique, le contingent de cordes est arrivé.
Le contingent de cordes est arrivé. On recrute toujours, hein, parce qu'on est toujours, mais pour l'harmonie, c'est pareil, on est toujours en manque. C'est-à-dire les gros pupitres dont on a besoin dans les orchestres d'harmonie, c'est souvent les pupitres de clarinette. Puisque les pupitres de clarinette sont répartis justement comme dans les orchestres symphoniques. Il y a le pupitre 1 de clarinette, le pupitre 2, le pupitre 3. Et là, nous avons toujours besoin de recruter des clarinettistes. Dans les orchestres symphoniques, on a toujours besoin de recruter des violons. C'est toujours la même chose. C'est toujours le manque qui existe. Mais enfin, ils sont arrivés. Et grâce justement à l'apport des vents et des cuivres de l'harmonie, c'est comme ça que l'orchestre symphonique s'est créé.
Il y a combien de personnes dans cet orchestre?
Ça veut dire que dans l'association complète, on est à peu près à plus de 80 personnes, puisque grosso modo, on est à 52 musiciens sur l'orchestre d'harmonie. Et l'orchestre symphonique, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la formation Mozart, c'est-à-dire que c'est un orchestre qui peut jouer le répertoire du 17e, 18e, début 19e. On n'est pas dans un orchestre de 80 musiciens.
Combien il y en a?
Mais il y en a une quarantaine. La formation Mozart, c'est une quarantaine de personnes. Mais ce qui veut dire, par exemple, le 23 avril, nous allons refaire ce que nous avons fait l'an dernier avec l'aide, c'est même plus que l'aide du Rotary, puisque c'est lui qui est le moteur de ce concert, puisque on aura l'occasion, je pense, sur les antennes de Grand Sud FM d'en reparler, puisque c'est pour une cause caritative qui est à nouveau la lutte contre le cancer. Nous allons, comme l'an dernier, réunir sur scène les deux orchestres, ce qui fait en effet une formation de plus de 80 musiciens.
Voilà. Mais l'orchestre symphonique, c'est dans votre format aujourd'hui, c'est la quarantaine.
Oui, absolument.
Donc, pas de symphonie fantastique de Berlioz au programme, par exemple?
Ah, ça serait un peu compliqué, parce que là, oui, il manquerait beaucoup d'éléments.
Et alors, cet orchestre, ou ces orchestres, puisqu'on a bien compris maintenant qu'il y en a deux, la tâche maintenant, vous avez des tâches, la tâche évidente, c'est de produire des concerts. Et là, comment ça se passe?
Alors, pour produire des concerts, d'abord, comme je disais.
Pour qui et pourquoi et quand?
Nous avons un certain nombre de concerts pour la ville. C'est les concerts traditionnels, on vient de passer les concerts du Nouvel An, par exemple, où on voit qu'en effet, il y a un vrai vivier de population musicale sur la ville de Narbonne, puisque depuis maintenant quelques années, nous devons faire, même si ces concerts sont offerts par la ville et donc gratuits pour le public, il n'en demeure pas moins que nous devons faire 3 concerts du Nouvel An. Et encore, nous ne satisfaisons pas tout le monde.
Et ceci au théâtre, hein, en salle rouge, dans
absolument.
Le théâtre. Alors, le théâtre qui vous est prêté, là, par
Non, non, là, c'est la ville qui loue théâtre, voilà. Puisque c'est la ville qui est maîtresse d'œuvre sur ce concert du Nouvel An. Et
donc, c'est elle qui gère l'ensemble.
Voilà. Je pense qu'on ferait une 4e représentation, ça serait à nouveau plein. On le voit, par exemple, nous avons fait, là, avec le symphonique, le concert de Noël à la cathédrale. De tous les gens qui étaient présents à la cathédrale, c'est vrai qu'avec Laurence, nous avons quand même l'habitude de nous produire dans un certain nombre de lieux, dont la cathédrale. Souvent, nous avons, grâce au public fidèle qui nous suit, rempli, entre guillemets, la cathédrale. Mais de mémoire d'anciens Narbonnais, ils n'avaient jamais vu ça. Moi, je n'avais jamais vu ça à la cathédrale pour le concert de Noël. C'est-à-dire que c'était archi-plein, bien sûr, dans le chœur, c'était archi-plein à l'étage, mais c'était archi-plein sur les bas-côtés, où les gens sont restés pendant tout le concert, debout, les uns serrés contre les autres. Et il y avait des personnes qui sont restées dehors.
Et des concerts dans la cathédrale, c'est pas très fréquent jusqu'ici?
Alors, c'est pas très fréquent, d'abord parce que il faut dire que, là encore, je ne sais pas si c'est dû à ce département de l'Aude qui a quelques particularité, mais il y en a une sur justement les concerts aussi dans les églises. Et d'ailleurs,
oui, parce que là, ça n'est ni la ville ni la gloire.
Alors, bien sûr, même si les églises sont des lieux de culte, c'est aussi des lieux où on peut se produire. Et nous sommes à l'heure actuelle, quand je dis nous, c'est les acteurs culturels, on va dire musicaux au niveau de l'Aude, puisque nous avons eu une réunion dernièrement à Carcassonne pour discuter de tout cela, puisque l'ancienne, j'ai plus le terme exact, mais c'était l'ancienne ADDM qui a réuni les acteurs qui se plaignaient de plus en plus d'avoir de grandes difficultés à jouer dans les églises.
Dans les lieux de culte.
Parce que il y a eu un règlement, si on peut dire, qui a été établi en fonction d'un certain nombre de critères. À mon avis, sur ces critères, il y en a certains qui sont quand même sujets à caution. Et pour le moment, nous avons demandé que tout soit remis à plat parce que nous sommes aperçus que des associations de chorales, par exemple, qui avaient l'habitude de se produire dans des églises, se sont vues interdire de se produire dans ces églises et ont été obligées de cesser leur activité. Ce qui est quand même, quelque part, fort dommageable. Et une lettre commune, co-signée par... ou en tout cas sous le couvert de la région, du département et des acteurs locaux, et donc initié par ce qu'est l'ancienne ADDM, a été envoyé à Mgr Planet pour une demande de rendez-vous.
Voilà. Bon, on voit que c'est pas toujours l'œcuménisme en matière de religion non plus. Les choses sont compliquées. Or, pourtant, un lieu aussi prestigieux que Saint-Just se prête merveilleusement, et vous l'avez fait remarquer, à ce genre de manifestations et de concerts.
Oui, d'autant plus que je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs culturels, et même les plus nombreux, qui sont tout à fait responsables dans leur programmation et qui savent ce que programmer des œuvres dans un lieu de culte veut dire, et ne font pas n'importe quoi.
C'est exactement ça.
Oui, voilà, monsieur. Ça ne sera pas rock'n'roll, quoi, soyons très clairs.
Non, ou Serge Gainsbourg, en fait, avec les paroles, bon...
ce niveau-là. Alors, je reviens sur l'orchestre symphonique. Quelle est la prestation fournie et à qui elle s'adresse?
Alors, la prestation fournie, elle s'adresse, là encore, à toute la population la plus large possible, en fonction des activités. Les activités de l'orchestre d'harmonie, comme je disais, elles sont sur la ville de Narbonne d'un certain nombre de concerts par an. Nous avons les concerts du Nouvel An, le concert de printemps. Nous intervenons aussi, par exemple, pour faire l'ouverture, ce que nous avons fait ces dernières années, de Narbonne Plage. De la saison de Narbonne Plage. Nous avons remis en place le concert de la Sainte-Cécile. Ça, c'est les activités de l'Orchestre d'Harmonie. Pour l'Orchestre Symphonique, c'est très variable et c'est plus en fonction, là, des demandes. Alors,
Oui, parce qu'il faudra un public un peu différent, peut-être, qui goûte la musique classique, en tout cas.
Oui, pas forcément, mais en tout cas, la structure étant peut-être un peu plus souple parce que moins nombreuse... on trouve plus, par exemple, de petites salles qui peuvent nous accueillir. Et c'est vrai que, paradoxalement, on travaille plus sur l'agglomération au sens large avec l'orchestre symphonique qu'avec l'orchestre d'harmonie.
Ah oui, pour une raison de salle. Alors,
souvent,
de capacité
c'est une raison de salle
ou
même d'église, parce que les églises sont certaines petites. Et on arrive quand même, les musiciens sont un peu serrés, mais on arrive à les faire rentrer avec un chausse-pied ad hoc.
Et puis on peut aussi également coupler les deux orchestres. Ça nous arrive là depuis 2-3 ans de mettre en commun l'orchestre symphonique et l'orchestre d'harmonie pour la bonne cause, puisque là, comme tu en parlais tout à l'heure, Bertrand, on fait là depuis 2 ans, on joue au théâtre avec le Rotary qui organise ce concert pour la lutte contre le cancer. Voilà. Et là
les deux formations sont sur scène,
absolument.
En même temps.
En même temps. Donc ça fait un orchestre de 80 musiciens. Et il y a toujours un répertoire. C'est pas que du répertoire classique. Il va y avoir de musique de film, là, pour cette fournée, pour cette année, des musiques de film, toujours encore du Leroy Anderson. Enfin, voilà. Ça va être très grand public. Ça va être très sympa.
C'est un espèce de choses qu'on organise. C'est-à-dire que là encore, c'est un peu une particularité qu'on a, parce que j'ai fait des recherches, il n'y a pas tant que ça de réunions comme ça, de deux formations qui sont quand même très parallèles l'une à l'autre dans leur répertoire. Et ça veut dire qu'il faut adapter le répertoire.
Bien entendu.
Ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'avec Laurence, nous travaillons à savoir quelle œuvre sera la plus appropriée, parce que finalement, on n'a pas de définition. Par exemple, on est toujours quelque part ennuyé de se dire, par exemple, sur l'affiche, qu'est-ce que l'on met comme identité. Alors, nous mettons les orchestres symphoniques et d'harmonie de Narbonne. Mmh. Mais ce genre de réunion d'orchestre, finalement, n'existe pas. C'est un espèce d'harmono-symphonique où moi, je refais des arrangements dans des partitions que je trouve pour le symphonique, pour des instruments qui n'existent pas dans le symphonique, mais il ne faut pas que ça double d'autres instruments. C'est toujours un peu compliqué. Mmh.
Voilà, donc finalement, là, c'est du made in Narbonne, alors.
C'est du made in Narbonne, absolument.
Bon, mais c'est sur ce label de qualité made in Narbonne pour l'orchestre, enfin, les deux orchestres, d'une part symphonique et d'autre part d'harmonie, que nous allons conclure. Merci. Alors, un tout dernier mot, Bertrand.
Juste un tout dernier mot, c'est aussi pour dire que sur 2017, donc, comme on disait, nous fêtons les 20 ans de l'Orchestre d'Harmonie, puisqu'il a été créé en 1997, mais surtout, nous allons fêter ces 20 ans toute l'année. Ce n'était pas seulement les concerts du Nouvel An où nous avons démarré.
Alors, non-stop, là.
Non-stop.
Oui.
Juste un petit mot, mais très court, pour profiter de vos ondes, pour remercier tout le public qui nous suit très fidèlement depuis toutes ces années.
Voilà,
vraiment, un grand merci à tous les auditeurs et à tout le public.
Et ça fait des milliers, si j'ai bien compris.
Voilà, merci beaucoup.
Eh bien, on les remercie également. Merci à vous deux, en tout cas, Laurence Fraisse et Bertrand Bail, d'être venus nous parler de musique. Ça change un petit peu les ondes de ce Radio Barque. Nous parlerons la prochaine fois, non pas de politique non plus cette fois-ci, mais de viticulture et de domaine viticole. Nous recevrons M. Georges Ortola, qui a plusieurs domaines viticoles sur le 14 et qui me semble être un exemple assez intéressant de ce qu'est devenu la viticulture aujourd'hui sous nos latitudes. Merci et merci encore une fois aux quelques milliers d'auditeurs qui ont honoré de votre présence vos concerts, et on les console en disant qu'il y en aura d'autres.
Tout au long de l'année.
Toute l'année 2017. Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci.